Frères et sœurs Timmerman, ils sont comme pour moi, en quelque sorte mes parents dans la foi. Et nous pourrions dire plus encore que frère Timmerman, c'est un peu la jeunesse de l'œuvre en français, c'est-à-dire l'homme des commencements. Il est le commencement de l'œuvre à Verviers, de l'œuvre à Liège, de l'œuvre à Bruxelles, de la première réunion des prédicateurs, de la première réunion des jeunes, de la première colonie de vacances, et de la première réunion du 11 novembre. Et aussi loin que je peux me souvenir, il était là. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai eu ce bonheur de rencontrer frère Timmerman. Je sais qu'il n'aime pas les louanges, pas plus que sœur Timmerman. Pourtant, il faut dire peut-être un mot du commencement. En réalité, tout a commencé parce qu'un soldat américain en 1945, allogé dans une famille de notre ville, en Belgique, dans la petite localité de Pepinster. Et puis ce fut la démobilisation, ce soldat, qui n'était même pas chrétien, est rentré dans son pays. Il a trouvé une jeune fille avec laquelle il s'est fiancé, et cette jeune fille était chrétienne. Et ce soldat, en reconnaissance, a envoyé quelques colis dans lesquels se trouvait de la documentation, des brochures de l'Église. Cette famille qui a hébergé ce soldat, qui a reçu ces brochures, ne pouvait même pas les lire, il ne connaissait pas l'anglais. C'est une voisine qui a interprété, et cette voisine était intéressée par le contenu de la brochure. Cette voisine a écrit, elle a voulu suivre un cours biblique, cette voisine a décidé d'être baptisée. Mais voilà, il n'y avait personne à l'époque en Europe francophone qui pouvait baptiser cette âme. Donc par un concours de circonstances, et le frère Otis Gatewood, qui se trouvait en Hollande, je pense à l'époque, avec un autre frère qui est venu pour baptiser cette personne. Mais lorsque cette personne est devenue chrétienne, il fallait un suivi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le suivi, c'est frère Timmerman, qui est arrivé à l'époque à l'âge de 30 ans. Oui, il a commencé son ministère au même âge que Jésus a commencé le sien. Et frère Timmerman a fait un excellent travail, évidemment. Il a commencé une assemblée dans cette petite localité, puis dans la ville de Verviers, ensuite, et puis, comme nous l'avons dit, cette œuvre n'a fait que croître et continuer. Je ne suis pas là pour raconter la vie de frères et sœurs Timmerman qui ont des enfants, petits-enfants, ils sont arrière-grands-parents, n'est-ce pas? Oui. C'est merveilleux, ils ont quatre enfants. Mais tout de suite, je vais présenter le sujet que frère Timmerman va nous donner ce soir. Les dons miraculeux et non miraculeux. Le travail de l'esprit aujourd'hui. Frère Timmerman, à vous.
En effet, Jean-Marie, maintenant un homme de passé 50 ans, et notre fils dans la foi, nous l'avons connu très jeune. Il était jeune de caractère, comme il était jeune d'âge, et il a beaucoup grandi depuis ces années-là. Et nous sommes très contents que Jean-Marie fait l'œuvre de Dieu que nous avons, avec l'aide de Dieu, débuté à Verviers. En 1968, quand nous étions revenus, quand moi je suis revenu, ma femme n'était pas avec moi, mais ma fille, Carole, était avec moi à Bruxelles pour une série de campagnes évangéliques. Frère Jean-Marie m'a fait savoir qu'il avait trouvé la femme qu'il lui fallait. Et c'était Suzanne. Il a voulu que j'aille à Verviers pour prononcer les vœux de mariage pour eux. Et maintenant, eux, ils ont des enfants qui sont mariés, ils sont grands-parents. Et ça me fait sentir un peu mon âge. Je suis très heureux que Jean-Marie et Suzanne ont continué cette œuvre depuis tant d'années. Et je suis heureux aussi de voir combien il y a de chrétiens qui assistent à ces retraites. Je sais que ce n'est qu'une infime partie de la totalité des chrétiens en France, en Belgique et en Suisse, mais cela me fait une très grande joie. Je ne sais presque pas m'exprimer en voyant tant de monde ici ce soir et de voir combien il y a de personnes dans le sol francophone qui servent le Seigneur et qui le suivent avec sincérité comme vous le faites. J'ai pensé en écoutant, je n'ai pas pu chanter tout à l'heure parce que mon cœur était trop serré, mais j'ai pensé à la dette de gratitude que nous avons envers un frère qui n'est plus avec nous, c'est frère Donald Dougherty, qui a traduit, qui a écrit lui-même tant de cantiques qui se trouvent dans le recueil. Frère Dougherty que j'aimais de tout mon cœur. Et je suis heureux que Colette est avec nous dans cette retraite. Il est difficile pour moi d'exprimer la joie que nous ressentons d'être parmi vous. Je ne m'attendais jamais à pouvoir assister à une de ces retraites dont j'ai entendu parler depuis des années, plusieurs années du moins. Mais nous voici et nous sommes très contents d'être avec vous, Maxime et moi, et espérons que tout ce que nous faisons ensemble pendant ces quelques jours reviendra à la gloire de Dieu. Oui, nous sommes venus en Belgique en 1948. Ça fait presque 49 ans, une bonne partie de notre vie, que nous sommes venus en Belgique. Il n'y a pas longtemps, le dernier jour du mois de janvier, que nous sommes devenus arrière-grands-parents pour la première fois. Je ne sais pas si je suis réellement l'arrière-grand-parent de l'œuvre de Dieu en français, ici en Europe, mais du moins, je suis heureux de ce que le Seigneur a fait depuis les années que nous ne sommes plus là, que cette œuvre a continué et que nous avons tant de frères et de sœurs qui compose plusieurs assemblées. Nous avons essayé tout à l'heure avec Arlen de compter le nombre d'assemblées en Belgique, France, Suisse, et nous sommes arrivés à, je pense, 16 à 17, peut-être Doyle pourrait me dire plus exactement. Mais quand nous sommes venus, il n'y avait pas d'assemblée en Belgique, ni en France, ni en Suisse. On m'a demandé cet après-midi, Frère Timmermans, quand vous êtes venu, est-ce que vous étiez au courant, soit d'une assemblée, soit des chrétiens qui partagent la même foi que nous? Et je dois vous dire que je n'en connaissais aucun. Pas en France, pas en Belgique, pas en Suisse. Quelle différence ce soir. Et j'en suis très heureux, très très heureux. Oui, les débuts étaient très durs. Nous étions un peu dépaysés, ma femme et moi, quand nous sommes arrivés en Europe. On connaissait quelques frères qui étaient en Allemagne. On ne les voyait pas souvent. Frère Otis Gatewood était en Allemagne en ce moment-là. Nous avons fait la connaissance de frère Jacob van der Wies, qui a fait les premiers baptêmes en Belgique. Mais on ne les voyait pas souvent. Nous sommes restés plus d'un an avant de voir un autre Américain quand nous sommes arrivés en Belgique. Et vous pouvez vous imaginer la joie quand la première famille américaine a décidé de nous joindre en Belgique. Et puis nous avons fait, après un an, la connaissance de frère Maurice Hall, sœur Hall, Marie, et Melvin et Iva Anderson, qui sont arrivés à Paris. Et frère Hall est venu nous voir avec Marie, je pense. Il m'a demandé, frère Timmerman, ne voulez-vous pas venir à Paris pour nous aider à commencer l'Église, prêcher dans un cycle de conférences? Ouh, ça m'a effrayé, parce que je ne connaissais pas le français quand je suis arrivé. J'ai dû beaucoup étudier pour pouvoir même porter une conversation sans parler de prêcher. Au début, je faisais mes études, des courtes études, en anglais. Et la dame dont Jean-Marie a parlé tout à l'heure, à Pepinster, les a traduits. Et figurez-vous, je ne savais même pas les lire, une fois qu'ils étaient en français. Je me mettais devant l'assemblée, et elle, dans sa chaise, lisait les sermons. C'était comme ça qu'il fallait faire à cette époque-là. Petit à petit, j'ai commencé à écrire des sermons très simples, vous savez, et très courts en français, à coup de dictionnaire et en utilisant beaucoup de textes bibliques. Je faisais des études et c'était elle qui les corrigeait pour moi. Et je lui demandais toujours, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as changé ceci? Parce que je voulais être sûr, non seulement qu'elle avait bien traduit, mais aussi, je voulais apprendre. Et je cherchais à apprendre le plus vite possible le français. Et tout doucement, j'ai préparé des études qui étaient un peu plus longues et que je faisais tout à fait moi-même en français. Et j'étais arrivé à cette époque-là à pouvoir les lire avec beaucoup d'accent. Et j'en ai toujours beaucoup d'accent. Je lisais mes sermons. Et quand frère Hall m'a demandé de venir, j'avais quelques-uns de ces textes, ces études que j'avais faites. Et j'ai dit, ça va, j'irai. Je pense que c'était au mois de mai 1950 que je suis allé à Paris. On avait loué un local sur la rive gauche à Paris. Et j'avais 8 sermons que j'avais prêtés pour ces conférences. Je ne sais pas si Maurice le savait, mais quand j'avais donné mes 8 prêches de dimanche en dimanche, chaque soir, eh bien, après le 8e, c'était fini. Il ne fallait pas me demander de prêcher encore une fois parce que je n'avais pas d'autres sermons à prêcher. Il aurait fallu recommencer. Mais c'était le commencement de l'Église proprement dit à Paris en 1950. Et puis, de temps en temps, on m'invitait à retourner à Paris, rue des Martyrs. C'était la salle dans la rue des Martyrs. Et c'est alors que nous avons fait la connaissance de notre cher frère Mathurin, le cardinal. Et j'étais à Paris, dans un cycle de conférences, quand une jeune fille, la fille de frère le cardinal, a demandé d'être baptisée. Et nous sommes allés dans une piscine quelque part, je pense, et Colette a été baptisée. Et elle est devenue donc la femme de frère Dougherty. Il y a tant de choses qu'on pourrait revivre, mais je ne veux pas prendre trop de temps ce soir à passer dans les souvenirs. Ils sont très précieux pour moi, peut-être plus que pour moi que pour vous. Mais j'ai été invité ce soir de traiter un sujet qui est très important. C'est le sujet du Saint-Esprit en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, les dons miraculeux et les dons non miraculeux. Je dois dire que lorsque je parle du Saint-Esprit, comme lorsque je parle de Dieu ou de son Fils, je me sens réellement sur une terre sainte. Et je veux en parler avec beaucoup de solennité et avec beaucoup de respect, parce que le Saint-Esprit est en réalité Dieu. Dieu le Saint-Esprit, comme il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit fait partie de la divinité. Ainsi, je vous demande ce soir d'écouter avec la même révérence que je veux aussi témoigner dans cette étude. Laissez-moi dire tout d'abord que le Saint-Esprit lui-même est un don. Il a été donné par Dieu, il a été donné, envoyé par Jésus. Donc le Saint-Esprit est un don. Et nous devons reconnaître combien ce don est précieux. Nous ne devons pas diminuer le rôle du Saint-Esprit dans la rédemption, dans la vie de l'Église, dans la sanctification de chaque membre de l'Église de Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle très très important. Nous devons faire une distinction, premièrement, entre ce qui est surnaturel et ce qui est miraculeux. Le miraculeux pourrait être surnaturel, bien sûr, mais les deux termes ne sont pas exactement synonymes. Tout ce qui n'est pas du naturel, tout ce qui ne vient pas de la nature, soit de la nature autour de nous ou de la nature humaine, est surnaturel. Le surnaturel est ce qui dépasse le naturel. Or, le miraculeux est ce qui est contraire à la science connue, quelque chose qui se fait qui serait impossible sans l'intervention d'une puissance supérieure. Un miracle est certainement surnaturel, mais tout ce qui est surnaturel n'est pas miraculeux. Et je veux faire cette distinction parce que le Saint-Esprit fait une œuvre chez les enfants de Dieu qui est surnaturel, parce que ça n'émane pas de la nature humaine, ça ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu, et c'est pour ça que c'est surnaturel, mais ce n'est pas pour la cause nécessairement miraculeuse. Et nous voulons parler des dons miraculeux et des dons non miraculeux, mais tous les dons qui viennent de Dieu, tout ce que le Saint-Esprit fait est dans le domaine du surnaturel, parce que ça ne vient pas de nous, ça vient d'en haut. On parle des dons spirituels dans les Écritures. Et ces dons étaient des dons miraculeux. Jésus en a parlé d'abord à ses disciples en Marc chapitre 16, après avoir donné ce que nous appelons communément la grande mission, aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis ensuite, il leur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Ainsi, Jésus donne une promesse. Il dit à ses disciples que certains signes, certains miracles seraient accomplis par les croyants. Mais je voudrais vous faire remarquer qu'il ne faut pas ajouter aux paroles de Jésus ce qui n'est pas dans le texte. Premièrement, Jésus n'a pas dit que ces signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Nous savons que même au temps du Nouveau Testament, il y avait des chrétiens, il y avait des croyants qui ne possédaient aucun de ces dons, qui ne parlaient pas en langue, qui n'avaient pas le don de prophétie, qui n'avaient pas le don de guérir. Ceux qui ont été convertis par Philippe à Samarie avant l'arrivée des apôtres, c'était des croyants. Ils avaient été baptisés, mais ils n'avaient pas encore ces dons. L'apôtre Paul aurait voulu aller à Rome, comme nous allons voir tout à l'heure, pour leur imposer les mains afin qu'ils soient dotés de ces dons spirituels. Donc il paraît que les chrétiens à Rome, qui étaient très croyants, n'avaient aucun de ces dons. Donc je dis cela pour dire que le mot « tout » n'est pas dans le texte. Il ne dit pas que ces dons accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils allaient accompagner certains qui auront cru. Et par la même logique, il ne faut pas ajouter le mot tout ou toujours comme font certains. Jésus n'a pas dit ces signes accompagneront les croyants pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Donc, il ne faut pas ajouter au texte ce qui ne fait pas partie du texte. Mais il n'en reste pas vrai que Jésus a promis à ses apôtres, à ceux qui étaient présents, que les croyants seraient accompagnés des signes et des prodiges. Lorsque nous tournons au 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens, et je vais certainement répéter plusieurs passages qui ont déjà été lus pendant la retraite, parce que nous avons déjà entendu plusieurs conférences, plusieurs causeries très importantes sur le Saint-Esprit. Et il est presque inévitable que nous allons citer certains textes qui sont les mêmes. À partir du verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. » Je m'arrête ici pour dire qu'il ne s'agit pas de la sagesse normale, de la sagesse que l'on obtient par l'étude ou que l'on a de ce par sa nature. Il s'agit d'une sagesse miraculeuse qui était accordée par le Saint-Esprit à certains dans l'Église à cette époque. Donc, il a donné à certains une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, toujours miraculeuse, à un autre, selon le même esprit, il a donné le don de la foi par le même esprit, et à un autre, les dons de guérison par le même esprit, et à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, le discernement des esprits, et à un autre, toutes sortes de langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Et puis il a dit que le seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce n'est pas aux hommes de choisir les dons qu'ils recevaient. C'était le Saint-Esprit qui décidait quel don serait donné à chacun. Or, nous avons ici, si j'ai bien compté, 9 dons qui existaient dans l'Église à Corinthe. Et si je comprends ce que Paul voulait dire dans le premier chapitre, au verset 7, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il remercie Dieu que les Corinthiens n'étaient pas en arrière sur aucun des dons. Ainsi, il ne vous manque aucun don dans l'attente que vous êtes de la révélation de Jésus-Christ. Donc, les 9 qui sont mentionnées ici étaient certainement la totalité des dons qui existaient dans l'Église, du moins à Corinthe. Et ces dons, ce sont ceux qui sont les mieux connus. il y avait certainement beaucoup d'autres églises qui avaient aussi les mêmes dons. Donc les dons existaient dans l'église à l'époque. Ces dons furent accordés pleinement à l'esprit de Corinthe. Notez que la possession de ces dons miraculeux pourtant ne fournit aucune preuve que cette église, du fait qu'elle était dotée de tous les dons spirituels miraculeux, que cette église était plus spirituelle que les autres. Si vous comparez par exemple l'église à Corinthe, et vous savez quel était l'état de cette église, les divisions, les péchés qui existaient dans l'église à Corinthe, péchés qui n'avaient même pas été disciplinés. Quand vous voyez cette église, elle était loin d'être une église très spirituelle. Mais l'église à Rome, où Paul voulait un jour se rendre pour imposer ses mains afin de communiquer des dons spirituels, cette église, paraît-il, n'avait pas des dons. Aucun apôtre n'était jamais à Rome, jamais été à Rome. Paul voulait y aller pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent les dons afin de pouvoir mieux accomplir l'œuvre de Dieu à cette époque. Mais cette église était une église très spirituelle, une église dont la foi était connue dans le monde entier, une église qui avait l'Esprit de Dieu en eux. Parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, dit Paul plus tard dans le 8e chapitre verset 9, il n'appartient pas à Dieu. Mais les Romains appartenaient à Dieu. C'étaient des chrétiens. C'étaient des chrétiens très spirituels, mais ils n'avaient aucun don, à ce que nous pouvons savoir selon la parole de Dieu. Donc je vous dis que la possession de ces dons miraculeux n'était pas une preuve que l'Église ou que ceux qui les possédaient étaient plus spirituels que les autres. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que si vous ne parlez pas en langue et si vous n'avez pas les autres dons de l'esprit, que vous n'êtes pas très spirituel. Mais dans la parole de Dieu, il n'en était pas ainsi. Et je ne sais pas si nous avons ce contraste entre ces deux églises en raison de nous montrer que la possession des dons spirituels n'était pas nécessairement preuve que l'on était plus spirituel soi-même. Mais comment ces dons spirituels étaient-ils communiqués aux autres? Et quel était le but de ces dons spirituels? Il faut répondre à ces deux questions afin de réellement comprendre pourquoi l'Église à cette époque avait des dons comme les langues, les prophéties et les guérisons, et ainsi de suite. Premièrement, le but de ces dons, d'après plusieurs textes dans la parole de Dieu, était pour donner une confirmation de la parole qui était prêchée par les apôtres et par d'autres qui annonçaient la parole de Dieu. On sait qu'à cette époque, on n'avait pas encore la Bible en main, le Nouveau Testament, comme nous l'avons aujourd'hui. Et comment, lorsqu'on prêchait de la part de Dieu, la preuve que cela venait de Dieu était par le moyen des signes et des prodiges, des miracles qu'on pouvait accomplir. Nous lisons dans le 8e chapitre des Actes que Philippe, l'évangéliste, s'est rendu à Samarie. Et lorsqu'il avait prêché l'évangile à Samarie, un grand nombre de personnes ont répondu. Hommes et femmes crurent et furent baptisés. Ils avaient donc obéi à l'évangile. Ils étaient croyants, ils étaient chrétiens lorsqu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Mais quand les apôtres, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, étant descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Or, si nous retournons au 2e chapitre, Nous voyons Pierre qui dit à ceux qui avaient demandé un frère, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'était en obéissant à l'Évangile qu'ils recevaient le don du Saint-Esprit. Ces personnes à Samarie avaient fait cela. Ils avaient été baptisés. Ils avaient témoigné leur foi en Jésus-Christ. Donc, ils étaient enfants de Dieu. Et d'après la promesse de Pierre en chapitre 2 des Actes, ils avaient reçu le Saint-Esprit comme étant une habitation en eux. Mais il y a quelque chose qui leur manquait ici, car les apôtres, Pierre et Jean, viennent pour leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il s'agit ici de quelque chose qu'on pouvait voir. Quand vous avez obéi à l'Évangile, quand vous avez témoigné votre foi dans les heures du baptême, est-ce qu'on pouvait voir le Saint-Esprit descendre en vous? Je pense que non. On ne pouvait pas voir cela. Mais Simon, le sorcier, qui lui-même avait cru et qui avait été baptisé, en voyant que c'était par l'imposition des mains des apôtres que le Saint-Esprit était donné à demander de pouvoir acheter ce pouvoir. Donc, ce que les apôtres ont donné par l'imposition de leurs mains était quelque chose de visible. C'était quelque chose qu'on pouvait constater et Simon aurait voulu acheter le même pouvoir de pouvoir donner aux autres ces mêmes dons que les apôtres avaient donnés. Donc, nous voyons ici que c'était par l'imposition des mains des apôtres que le Saint-Esprit, dans sous forme de don spirituel, miraculeux, a été communiqué. Il est assez intéressant que Philippe, l'évangéliste, avait fait beaucoup de miracles. Il avait chassé des démons. Il avait guéri des malades, d'après le 8e chapitre des Actes. Mais il a fallu que deux apôtres viennent de Jérusalem pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit. Philippe, qui avait ces dons, ne pouvait pas les communiquer. Il n'était pas apôtre, il ne pouvait pas les communiquer. Il fallait que deux apôtres viennent expressément pour faire cela. Philippe avait reçu sûrement les pouvoirs miraculeux, d'après le chapitre 6, au verset 6, quand il a été choisi avec quelques autres hommes pour servir les tables à Jérusalem. On les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Or, il n'est pas dit ici que cette imposition de mains était expressément pour leur donner ces pouvoirs miraculeux. Mais Philippe avait ces pouvoirs et il avait reçu l'imposition des mains des apôtres. Et puis, je vous ai déjà fait noter que Paul voulait aller à Rome pour leur imposer les mains, lui, apôtre, afin qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit. Romains chapitre 1 et le verset 11. Plus tard, en écrivant à Timothée, dans la deuxième épître de Paul à Timothée chapitre 1 au verset 6, il exhorte Timothée de ne pas négliger le don qu'il avait reçu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Paul était apôtre. Et étant apôtre, il pouvait imposer ses mains. Et Timothée a reçu le don de Dieu, ou les dons de Dieu, par l'imposition de ses mains. Il a remarqué que Paul parle de l'imposition des mains des évêques, des anciens, dans la première épître à Timothée, chapitre 4, au verset 14. Où il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Alors, il y en a qui disent, mais voilà, ce n'est pas des apôtres, ce sont les anciens qui ont imposé leurs mains. Mais dans l'original, il y a deux prépositions dans ces deux textes. Dans le texte en 2 Timothée chapitre 1, verset 6, la préposition en grec, c'est dia, par le moyen de. C'était donc le moyen par lequel Timothée a reçu les dons. Ici, dans ce texte, la préposition en grec, c'est « meta », avec, en même temps que. Donc, les anciens avaient aussi posé leurs mains sur Timothée. Quand Paul a posé ses mains pour communiquer le don spirituel, les anciens avaient aussi posé leurs mains sur lui pour indiquer leur approbation de son ministère. Donc, ici, nous voyons que les dons spirituels ne se communiquaient pas autrement que par l'imposition des mains des apôtres. Conclusion, les apôtres ne sont plus là. Ils sont tous morts avant la fin du premier siècle. Alors nous devons supposer que ces dons spirituels qui avaient été communiqués s'atténuaient et disparaissaient tout doucement après la mort des apôtres. Et historiquement, il en fut ainsi. Vous lisez l'histoire, vous allez voir que après le deuxième siècle, on n'en parlait plus. Donc, ici, nous voyons que les dons spirituels étaient communiqués uniquement par la main des apôtres. Mais quel était le but de ces dons spirituels? En retournant à Marc, chapitre 16, il est dit que Jésus, après leur avoir promis ses signes, ses prodiges, les nouvelles langues, les guérisons, et ainsi de suite, que le Seigneur, verset 19, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, les apôtres, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Pourquoi Jésus a-t-il donné ces dons miraculeux aux apôtres? Mais ici, nous voyons la raison. C'était pour confirmer la parole lorsqu'il prêchait. Quelle autre preuve pouvait-il donner aux hommes du monde si ce n'était les miracles qu'il pouvait accomplir pour confirmer la parole et attester du fait qu'il parlait de la part de Dieu? En Actes chapitre 14, nous avons aussi un texte qui nous montre que c'était ainsi que la parole était confirmée. Actes 14, verset 3, Paul et Barnabas parlaient avec pleine assurance dans le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des miracles et des prodiges qui se produisaient par leurs mains. Donc, Paul et Barnabas, en suivant le texte en Marc, ont utilisé les dons pour confirmer la parole qu'ils annonçaient. Et plus loin, en Hébreux, chapitre 2, l'apôtre parle du grand salut que nous avons reçu en Jésus, ce salut qui a été d'abord annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire par les apôtres. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges, des miracles variés et par les communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné sous cette forme, forme de don miraculeux, c'était pour appuyer, confirmer la parole de Dieu. Or, ce but est achevé. La parole de Dieu a été donnée pleinement dans son entièreté avant la fin du premier siècle. Et non seulement la parole de Dieu avait été donnée entièrement, mais elle avait été aussi confirmée entièrement et consignée dans ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui des miracles pour confirmer la parole de Dieu. La parole de Dieu a déjà été confirmée. Et dire que nous avons besoin de miracles aujourd'hui pour confirmer la parole porterait atteinte à l'inspiration et à l'entièreté de la révélation que Dieu nous a donnée dans sa parole. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de prophétie aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de miracles pour confirmer la parole aujourd'hui. Vous n'avez pas oublié ce que Abraham a dit dans l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche se trouvait après la mort dans les tourments. Il voulait d'abord qu'Abraham envoie Lazare pour tremper le bout de son doigt dans de l'eau, pour lui rafraîchir la langue. Il était en tourment dans les flammes. Abraham dit, c'est pas possible, tu as eu toutes tes bonnes choses à l'autre côté. Lazare a eu ses mauvaises choses ici, les tables ont été renversées, vous êtes maintenant tourmenté, il est béni. Mais alors, il voulait que Lazare soit envoyé vers ses cinq frères qui étaient toujours vivants sur la terre pour leur attester de ne pas venir là où il était. Et Abraham leur dit, mais ils ont Moïse et les prophètes. C'était les Écritures de l'époque. Ils avaient Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais non, dit-il, ils n'avaient pas écouté Moïse et les prophètes, ils savaient que ses frères ne feraient pas davantage. Alors il dit, mais si quelqu'un ressuscite des morts, ils écouteront. Et Abraham a dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront même pas si on ressuscite des morts. Et vous savez que quelque temps après, Jésus a ressuscité un homme du nom de Lazare. Même nom. Et au lieu de croire, il cherchait à mettre Lazare à mort pour faire disparaître le témoignage de celui qui avait été ressuscité. Et Jésus lui-même est ressuscité d'entre les morts. Mais ils n'ont pas cru. Ils ont même payé les soldats pour dire que ses disciples étaient venus de nuit. Envoler le corps, enlever le corps. Donc, celui qui ne veut pas croire à la parole de Dieu, qui a été suffisamment attesté, confirmé par les miracles et les signes qui ont été accomplis autrefois, il ne croirait même pas si on ressuscitait entre les morts. Donc, nous disons que les dons spirituels miraculeux n'existent plus dans l'Église. D'ailleurs, cela avait été prophétisé, avait été annoncé par l'apôtre Paul. Vous connaissez le texte en 1 Corinthiens, chapitre 13. Je ne vais pas lire tout le chapitre. C'est dans le contexte des dons spirituels. À partir du chapitre 12 jusqu'à la fin du chapitre 14, Paul parle des dons spirituels qui existaient dans l'église à Corinthe. Mais il voyait que les Corinthiens avaient la tendance de vouloir rechercher certains dons, particulièrement le don de langue. Et il leur dit, mais écoute, ce que je vois chez vous, c'est que l'essentiel vous manque. Vous n'avez pas d'amour parmi vous. Vous recherchez tous ces dons spirituels alors que l'essentiel est absent. Donc il dit, à partir du verset 1 du 13e chapitre de 1 Corinthiens, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est une exagération, c'est une façon de dire, même si je pouvais parler comme des anges, et si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une bronze qui résonne, ou comme une cymbale qui retentit. Ça ne rime à rien. Si j'ai tous ces dons et que je n'ai pas l'amour, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, tout cela miraculeux, si j'avais tout cela, dit-il, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, c'est une foi miraculeuse, et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé et je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et puis il dit l'amour. Voici ce que c'est l'amour. Et vous connaissez le texte. Je ne vais pas lire la description qu'il donne de l'amour. Mais il dit enfin, l'amour ne périt jamais, ne succombe jamais. Que ce soit des prophéties, eh bien, elles cesseront. Pas l'amour, mais les prophéties. La connaissance, cette connaissance miraculeuse, elle sera abolie. Et les langues, eh bien, elles aussi seront un jour tues. Les langues cesseront. Les prophéties cesseront. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Notez que lorsqu'il parle de ce qui est partiel ici, connaissance, sagesse, langue, prophétie, lorsqu'il parle de toutes ces choses, il s'agit de la révélation de la volonté de Dieu qui se donnait à cette époque avant que le Nouveau Testament ne soit achevé. Il fallait que ces dons existent pour attester la parole. Mais ils allaient être abolis. Et plus tard, il dira, « Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je parlais comme un enfant, mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. » Est-ce que Paul parle de son enfance rien pour nous rappeler qu'il a été enfant un jour? Non, c'est pas ça. Mais il nous dit que lorsque l'Église était dotée de ses dons spirituels, l'Église était en quelque sorte dans son enfance. C'était l'immaturité de l'Église qui exigeait ses dons spirituels. C'était que la révélation de Dieu n'était pas achevée et il a fallu donc des dons pour confirmer la parole. Mais lorsque l'Église arrivera, dit-il, à sa maturité, lorsque l'Église sera dotée de la parole entière, de la révélation entière, alors l'Église fera disparaître les choses de l'enfance. Une illustration. On construit un bâtiment